Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver aussi nombreux. Là, je pense que je vais demander à devenir sujet monégasque. Je vais pouvoir me réclamer de votre présence ici nombreuse. On avait donc prévu, les uns les autres, de parler de l'hédonisme, de répondre à la question « comment peut-on être hédoniste ?». Donc dans un premier temps, je vais tâcher de vous dire ce qu'est l'hédonisme, comment ça fonctionne, ce qu'on met derrière ce terme-là, et ensuite comment on peut l'être aujourd'hui, au quotidien, puisque c'est une longue tradition, l'hédonisme, c'est à peu près 25 siècles de pensée. Je vous dirai un peu rapidement à quoi ça ressemble, ces 25 siècles. Et puis surtout, comment on peut l'être aujourd'hui, puisque j'en propose une formule dans une logique qui n'est pas novatrice, ou du moins qui est novatrice dans la mesure où je propose une espèce de lecture de ce que pourrait être l'épicurisme aujourd'hui. Comment pourrait-on être épicurien aujourd'hui? Comment pourrait-on être disciple d'Aristippe aujourd'hui, à l'ère du virtuel, du nucléaire, de la mondialisation ou de la planétarisation? Donc, dans un premier temps, essayez de dire ce qu'est l'hédonisme, parce que c'est un mot à double entrée, comme souvent dans les registres philosophiques avec les mots importants, un idéaliste, un matérialiste, un utilitariste. Ça veut dire des choses extrêmement différentes suivant qu'on est sur le terrain de la philosophie ou qu'on est sur le terrain de la langue vulgaire et triviale. Je prends cynisme, par exemple, qui est un mot à double entrée aussi, puisque vous pouvez prendre le dictionnaire et vous verrez qu'un cynique, c'est quelqu'un qui est disciple de Diogène, Diogène de Sinope, donc philosophe cynique de l'Antiquité grecque, et donc ça suppose une ascèse, une philosophie de l'ascèse, mais c'est aussi le cynique, celui qui est sans foi ni loi, ce qui n'est bien évidemment pas le cas de Diogène. Donc on ne va pas faire l'histoire des glissements sémantiques, pourquoi un mot peut dire une chose et pourquoi en même temps il peut dire le contraire de cette chose-là, mais sur l'hédonisme, on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Un hédoniste, c'est quelqu'un qui nous dit que le plaisir est le souverain bien. C'est une définition a minima. Alors vous pouvez me dire, mais c'est quoi le plaisir? Est-ce qu'on est sûr de savoir ce que définit le plaisir dans cette occurrence-là? Et puis c'est quoi un souverain bien? Après tout, c'est pas forcément du registre courant ou du vocabulaire courant, le souverain bien. On dira que dans l'Antiquité, qui est plutôt ma période de prédilection, la philosophie se pratique d'une autre manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien souvent la philosophie de l'université, c'est bien souvent la philosophie de l'institution, alors que dans les écoles antiques, les cyniques, les stoïciens, les épicuriens et autres, ce sont des disciplines qui sont pratiquées par les gens du commun. C'est-à-dire qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui peut être docker, qui peut être marchand de poissons, qui peut être charpentier. À cette époque-là, un disciple comme Protagoras, eh bien, c'est un individu qui était justement docker sur le port et qui devient le portefeuille, qui devient le Protagoras que nous savons. Donc moi, j'aspire à cette période de la philosophie antique où la philosophie n'est pas une affaire de spécialistes, mais une affaire de gens qui ont envie de bien vivre, de mieux vivre, de vivre différemment, qui ont envie de vivre une conversion, on appelle ça comme ça à l'époque, une conversion, et le christianisme récupère cette expression, ce mot, la conversion, et le principe même de la conversion. Mais avant que d'être chrétienne, la conversion, elle est vécue sur le mode philosophique et pratiquée sur le mode philosophique. Donc, l'hédonisme et le plaisir, et le souverain bien. Le souverain bien, dit-on, dans l'Antiquité, c'est ce qu'il faut viser absolument. On n'est pas dans des logiques de philosophie qu'on dira kantienne, et de fait et pour cause, puisque Kant est dans une époque qui est plus que postérieure. On est au XVIIIe chez Kant, et on est dans une période extrêmement ancienne où la philosophie est, on pourrait dire, utilitariste. Le mot pourrait aussi ne pas convenir, on ne va pas entrer dans le détail de ce terme-là, mais à l'époque de la philosophie antique, on n'est pas dans une perspective kantienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bien absolu, un mal absolu. Il y a, en revanche, des situations dans lesquelles il y a du bon ou du mauvais. Et le souverain bien, c'est ce qu'on place comme objectif principal. On vise quelque chose qu'on appellera le souverain bien. C'est la vertu, c'est le plaisir, c'est la douceur, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, pour le dire dans le vocabulaire d'Épicure. On a donc un souverain bien qui est l'idéal vers lequel nous sommes censés nous tourner, c'est-à-dire l'idée de la raison, pour le dire dans un vocabulaire kantien. Il y a une formule qui, moi, me paraît extrêmement juste et qui pourrait être la formule de l'impératif catégorique des hédonistes, c'est-à-dire des gens qui considèrent qu'il faut chercher le plaisir, que le plaisir est le souverain bien, c'est-à-dire qu'il faut positivement chercher le plaisir, mais qu'il faut négativement chercher à éviter le déplaisir. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire on va chercher un plaisir positif, mais on se débrouille aussi pour éviter les négativités. Les négativités, ce sont les douleurs, les souffrances, les peines, les misères, les maladies diverses du cœur et de l'âme et du corps. Et il faut entendre l'hédonisme donc comme une recherche du plaisir, mais comme une recherche aussi des occasions de fuir le déplaisir. Et cette phrase dont je vous disais il y a quelques instants qu'elle était l'impératif catégorique de l'hédonisme, je l'emprunte à Champfort, qui ne passe pas pour être un philosophe, c'est-à-dire un philosophe qu'on enseigne à l'université, au lycée, ou qu'on présente comme tel. Champfort passe pour un moraliste, ce qu'il était, du XVIIIe siècle. Et les moralistes sont, comme La Bruyère, comme La Rochefoucauld et quelques autres au siècle précédent, des individus qui pratiquent aussi la philosophie autrement, différemment, sur le mode de l'aphorisme, du trait d'esprit, du coup de génie, de la phrase qui fait mouche, de l'aphorisme qui permet de concentrer une philosophie tout entière ou une pensée tout entière. Et Champfort nous dit cette phrase magnifique, et on va tâcher de voir comment elle fonctionne, et quand on aura vu comment elle fonctionne, on aura une définition de l'hédonisme, puis après on verra comment on peut l'être. Champfort nous dit « Jouis et fais jouir, sans faire de mal, ni à toi, ni à personne, voilà toute morale. » Je reprends pour que vous puissiez prendre des notes, mais je redéfinis. « Jouis et fais jouir ». On est dans la jouissance, qui est la jouissance du XVIIIe siècle, c'est-à-dire pas du tout la jouissance sexualisée, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. La jouissance, c'est le plaisir pris à être, c'est le plaisir pris au monde, c'est le plaisir pris aux autres. « Jouis et fais jouir ».« Jouis et fais jouir ». Il y a cette articulation du jouir et du faire jouir, sans faire de mal ni à toi, donc considération personnelle, ni à personne, considération altruiste. Voilà toute morale. C'est une phrase qui concentre absolument ce qui fait la pensée hédoniste de son origine, je dirais, c'est-à-dire Leucippe ou Démocrite, des gens qu'on présente comme des présocratiques, je vous dirai pourquoi tout à l'heure je dis qu'on présente comme des présocratiques, jusqu'à des gens qui seraient aujourd'hui les derniers des hédonistes, comme Clément Rosset ou comme Robert Misrahi ou Raoul Van Egem, qui sont des gens qui vivent encore et qui sont actifs sur le terrain de la philosophie contemporaine. Donc jouir et faire jouir, sans faire de mal, ni à toi ni à personne, voilà toute morale. C'est très intéressant de voir que la dimension, elle n'est pas que dans la jouissance. Les Champfort ne nous dit pas « jouis, virgule, voilà toute morale ». Ça, ce serait Sade, ce serait le marquis de Sade, qui est un grand féodal, et pas du tout le républicain qu'on se plaît à dire, pas du tout le révolutionnaire des mœurs. C'est un pré-fasciste, si on veut utiliser l'expression. Les 120 journées de Sodome fonctionnent comme un grand livre fasciste, extrêmement misogyne, et qui est dans une logique de haine du corps, de haine des désirs, de haine des passions, de haine des pulsions, et qui est dans une perspective encore chrétienne du corps qui ne jouit que quand il souffre et fait souffrir. Donc on n'est pas du tout dans une perspective hédoniste dans cette aventure. L'hédonisme suppose, de fait, le faire jouir. La volonté de considérer que autrui est un partenaire pour ma propre jouissance et pas du tout une entrave. De fait, on peut imaginer qu'un hédoniste, c'est quelqu'un qui nous dira que le plaisir d'autrui est constitutif de son propre plaisir. Pas question d'avoir du plaisir contre autrui, sans autrui ou malgré autrui, pour l'hédonisme, du moins tel que je l'entends. Il s'agit donc de trouver des articulations qui nous permettront de savoir à partir de quand ma jouissance devient gênante pour autrui et à partir de quand la jouissance d'autrui devient possible ou pensable. Pour ce faire, il faut partir d'un sujet qui, j'en conviens, est un sujet plutôt théorique. C'est-à-dire que si on considère qu'on va parler pour l'homme, au sens large du terme, ce qui comprend évidemment la femme, si on parle pour l'homme, on considérera qu'il n'est pas ce que j'appelle un délinquant relationnel. L'homme qui est susceptible d'avoir des relations hédonistes avec autrui est d'abord susceptible d'avoir des relations hédonistes avec lui-même. C'est donc quelqu'un qui n'est pas dans une perspective de souffrance, d'automutilation, de destruction de soi ou de ce que Spinoza appelle des passions tristes. Il s'agit d'être dans un rapport sain et correct, adéquat, pour utiliser le vocabulaire de Spinoza, d'être dans un rapport adéquat à soi, au monde et aux autres. Donc pour une relation hédoniste, il faut que que les parties prenantes soient claires sur leur propre désir, claires aussi sur leur propre plaisir. Il faut savoir ce que l'on veut, il faut savoir ce à quoi on aspire, et il faut tenir le cap de la proposition qu'on se sera faite et de la proposition qu'on aura faite aussi à autrui. Il s'agit de considérer, non pas dans une perspective paulinienne, la perspective de Saint-Paul, vous la connaissez, c'est « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Là, on est dans la négativité. On vous dit, pour toute morale, « ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse ». L'hédoniste dit positivement, il inverse la formule, il dit positivement « fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse ». Donc, de fait, vous imaginez que si vous êtes dans une perspective hédoniste, vous allez donner du plaisir à autrui, parce que vous voudriez qu'autrui vous en donne aussi. Donc il y a une espèce d'abnégation, a priori, c'est-à-dire qu'on s'oublie, mais on s'oublie au profit de l'autre qui lui-même va s'oublier à notre propre profit, puisqu'on est toujours l'autrui des autres. Et en ce sens, on s'aperçoit que le renoncement à quoi invite l'éthique hédoniste est un renoncement qui suppose un gain plus grand, puisque théoriquement, on est censé récupérer le plaisir que tous les autres nous donneront aussi. Ce qui veut dire qu'il y a une véritable dynamique qui est censée s'enclencher, mais là, de fait, on est sur le terrain d'une théorie ou d'un sujet normalement construit, c'est-à-dire d'un individu qui sait ce qu'il veut et qui est capable de tenir le cap de son désir et de son propre plaisir. Il y a, je disais tout à l'heure, des délinquants relationnels, ce que j'appelle les délinquants relationnels, c'est-à-dire des individus qui, pour les rentrer dans deux catégories un peu faciles et sommaires, mais sont des sadiques ou sont des masochistes. Les sadiques sont des individus qui, comme vous le savez, dans la logique de Sade et des romans de Sade, jouissent de faire souffrir. Le sadique est quelqu'un qui jouit de faire mal. Le masochiste, Sacher Masoch, qui lui est un autre écrivain, 19e siècle, La Vénus à la fourrure et quelques autres ouvrages, le masochiste est celui qui jouit de se faire souffrir. Donc vous imaginez bien que, en plus de ça, il y a des sadomasochistes, hein, vous voyez un petit peu, pour compliquer la chose, des gens qui jouissent de se faire mal tout en faisant mal aux autres. Et il faut compter avec tout ça. Alors on pourrait imaginer que ma lecture est un petit peu sommaire et qu'il n'y a pas d'un côté les délinquants relationnels et de l'autre les gens clairs sur eux-mêmes, mais qu'il y aurait des pulsions sadiques, des pulsions masochistes, des pulsions sadomasochistes et que tout un chacun, nous serions porteurs de ces pulsions-là en plus ou moins grande quantité. Il y a du sadisme chez nous, il y a chez nous tous et toutes, il y a du masochisme chez nous toutes et tous, il y a du sadomasochisme en quantité différente. Et nous dirons que quand la quantité c'est trop et que c'est trop dense, trop important, trop récurrent, alors à ce moment-là, on pourra dire de quelqu'un qu'il est sadique, qu'il est masochiste ou qu'il est sadomasochiste. Vous imaginez bien qu'avec un individu de cet acabit, ça devient difficile de remettre en place ou de remettre en selle la formule que je vous signalais tout à l'heure, c'est-à-dire « fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse ». Comment est-ce qu'on fait avec un sadique qui, lui, n'a de jouissance que dans la souffrance qu'il inflige ? Si vous dites « je fais souffrir l'autre parce que j'aimerais qu'il me fasse souffrir », et pour ça, il faut la composante masochiste. Donc vous voyez qu'on est obligé de réfléchir et de théoriser sur des sujets qui sont des sujets de fiction, des sujets de fiction pure, et que dans la réalité, il n'y a pas de sujet de fiction pure, que chaque individu est constitué de ces pulsions-là, est traversé par ces pulsions-là, et que toute l'éthique, justement, c'est de régler ces problèmes-là. Régler les problèmes du sadisme, régler les problèmes du masochisme, régler les problèmes du sadomasochisme. Donc, on va faire comme si le sujet n'était pas un délinquant relationnel, et qu'il était capable de savoir qui il est, ce qu'il est, d'où l'intérêt du « connais-toi-toi-même » de Socrate, c'est-à-dire de la perspective de la philosophie antique qui vous invite à savoir qui vous êtes, pour savoir ce que vous pouvez. Et il me semble qu'il faut déjà partir sur ce terrain-là. A priori, donc, l'hédonisme suppose une, j'allais dire, saine construction de soi, mais une construction de soi. Il n'est pas tenu d'être saine, mais qu'au moins il y ait une construction de soi. Il faut des individus structurés, construits, sachant qui ils sont et disposant d'une colonne vertébrale. Première définition de l'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir est un souverain bien, première chose. Deuxième chose, la question de l'impératif catégorique formulé par Champfort. Et troisième chose, les limites à cette proposition de Champfort avec les délinquants relationnels sadiques, masochistes et sadomasochistes. Tout ça pour voir un peu ce qu'est l'hédonisme et comment il peut fonctionner théoriquement indépendamment de l'histoire. Premier temps. Donc deuxième temps. Dans l'histoire, il faut savoir que l'hédonisme existe, et depuis très longtemps, mais que c'est une tradition franchement occultée. Moi, quand je me suis trouvé à l'université et qu'on m'a fait découvrir, enfin que mon vieux prof de philosophie antique m'a fait découvrir les cyniques, j'ai été très étonné de voir apparaître leur nom et de voir qu'il n'y avait pas que Platon dans l'Antiquité, ou que Aristote, ou que les stoïciens, ou que les grands tenants de ce que Nietzsche appelle l'idéal ascétique. Il y a des tenants de l'idéal ascétique, c'est-à-dire des individus qui nous disent « pas de passion, pas de désir, pas de pulsion, pas de corps, pas de chair, pas de femme », grande tradition misogyne de la philosophie dominante. Toute cette philosophie-là, on a l'impression qu'elle est la philosophie parce qu'elle est la seule qu'on nous présente. Or, il y a une autre philosophie qui est une philosophie alternative et dont j'ai découvert depuis à peu près 5 ans qu'elle était ostensiblement occultée avec des mécanismes divers. J'ai pour ce faire créé en 2002 une université populaire à Caen, où avec quelques amis, nous travaillons soit sur des textes alternatifs, ou soit de manière alternative sur des textes classiques. C'est-à-dire que, par exemple, on ne prendra que le cas des présocratiques dont je parlais tout à l'heure, on s'interroge, je m'interroge tout seul, puisque c'est moi qui m'occupe de ces choses-là, de la contre-histoire, mes autres amis travaillent sur d'autres sujets, les idées féministes ou d'autres problèmes, la philosophie pour les enfants, par exemple. Moi, j'ai démarré sur cette perspective-là. Faisons une contre-histoire de la philosophie qui, a priori, s'appelait « Génie de l'hédonisme », qui était un clin d'œil au génie du christianisme de Chateaubriand. Et je m'étais proposé de montrer qu'il existait une tradition hédoniste parce que, je me souviens d'une productrice de France Culture qui m'avait dit « Mais enfin, l'hédonisme, c'est pas une philosophie. Il n'y a jamais eu de philosophe hédoniste. Et puis, finalement, tous les philosophes sont hédonistes. » Je dis « Non, vous dites des choses contradictoires et des choses fausses. » Il me semble qu'il y a des philosophes qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, et que ces philosophes-là, ils ont tout de même une cohérence. Et probablement, il y a une cohérence qui va des présocratiques jusqu'à notre époque, et il serait bon que nous écrivions l'histoire de cette pensée-là. On commence avec les présocratiques. J'ai rencontré jadis feu Jean-Paul Dumont, qui est décédé depuis, mais qui était le responsable de l'édition des présocratiques en Pléiade. Pléiade, ça fait partie des monuments vivants, des autorités littéraires, philosophiques, scientifiques. On sait bien que si le concept de présocratique sert de titre à un volume de la Pléiade, c'est qu'il existe des présocratiques. Et vous découvrez qu'il y a à peu près 200 ou 300 philosophes qu'on dit présocratiques, et que le philosophe le plus important parmi les présocratiques s'appelle Démocrite, et qu'à lui seul, il est responsable d'à peu près le tiers de la totalité du corpus qui existe encore aujourd'hui sous la rubrique présocratique. Donc vous vous dites, c'est singulier que ce philosophe-là puisse être présocratique alors qu'il est atomiste, alors qu'il est matérialiste, alors qu'il est hédoniste, c'est-à-dire atomiste, il pense que le réel n'est constitué que de matière, il est matérialiste parce que tout ce qui est pour lui est réductible à des agencements d'atomes, et il est hédoniste parce qu'il pense que le souverain bien, c'est effectivement le plaisir ou le bonheur. Et cet individu-là qui est majeur, on découvre qu'il est noyé dans une espèce de concept fourre-tout, puisque vous avez parmi les présocratiques tout et le contraire de tout, c'est-à-dire un Parménide qui est hyper idéaliste, un Héraclite qui, à sa manière, invente la dialectique, ou un Démocrite ou un Leucippe qui sont des matérialistes qui inaugurent une tradition qui, elle, assez probablement, a ses sources en Inde. Car la philosophie n'est pas, comme on le dit habituellement, une invention grecque du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est la chose classique, c'est ce qu'on enseigne dans tous les manuels. Il y a une pensée chinoise, il y a une pensée indienne qui préexiste à la philosophie grecque. Et cette philosophie grecque, elle s'inspire, via l'Inde et des gens comme Pythagore, elle s'inspire de tous ces continents qu'on a totalement oubliés, totalement négligés. Première découverte, il y a dans cette histoire de la philosophie alternative, cette contre-histoire de la philosophie, des continents oubliés, négligés, parce qu'ils ne sont pas grecs, parce qu'ils ne sont pas européens, mais qui sont pourtant considérables puisqu'ils sont fondateurs du génie européen qui nous est propre. Nous découvrons avec Démocrite qu'il y a une singularité particulière du point de vue de la chronologie, puisque un présocratique, c'est normalement quelqu'un qui est avant Socrate. Et je constate que Démocrite survit 40 ans à la mort de Socrate. Comment peut-on être présocratique et survivre à quelqu'un qu'on précède ? C'est tout de même une étrange proposition que Démocrite puisse être installé comme ça dans l'histoire de la philosophie comme quelqu'un qui serait avant Socrate alors qu'il lui survit 40 ans, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis je découvre que Jean-Paul Dumont lui-même signale, pas un imbécile, il a constaté effectivement que Démocrite survit à Socrate, mais pourtant il en fait un présocratique. Quel intérêt y a-t-il, dans l'histoire de la philosophie, à considérer un peu sur le mode christique qu'il y aurait Dieu et son prophète, ou qu'il y aurait Dieu et son Messie, et qu'à partir de ce moment-là, on pourrait enfin compter dans l'histoire de la philosophie des dates qui seraient des dates de l'humanité véritable, alors qu'avant, nous n'aurions qu'une espèce de barbarie. Vous savez que la barbarie, c'est celui qui barbare, qui part comme ça, dont on ne comprend pas la langue. Le personnage qui ne parle pas grec, c'est le barbare. Eh bien, il y a des philosophes qui sont un peu barbares à leur manière, ce sont les présocratiques, parce qu'avec Socrate, enfin, la philosophie devient la philosophie. Et avec Socrate, on a aussi une figure qui devient celle de Platon. C'est une figure inventée totalement par Platon, même si même s'il y a une figure historique qui est celle de Socrate, mais au moins le Socrate dont nous parlons aujourd'hui est un Socrate considérablement platonisé. 90% du portrait de Socrate, c'est un Socrate fabriqué par Platon. Et l'on découvre, d'un seul coup, qu'il y a une histoire de la philosophie dominante, et que cette histoire de la philosophie dominante, elle suppose une histoire de la philosophie dominée. Platon est un philosophe dominant, Démocrite est un philosophe dominé. Démocrite est un philosophe de la tradition hédoniste, Platon est un philosophe de la tradition idéaliste. Comment se fait-il que les choses s'enclenchent comme ça? On pourrait continuer ensuite et montrer qu'il y a une occultation des cyniques avec Diogène, des cyrénaïques avec Aristippe, des épicuriens, des petits épicuriens, c'est-à-dire Lucrèce et Épicure, on en parle bien sûr, Lucrèce on en parle également, on parle très peu de Diogène de Nanda, on parle très peu de Philodème de Gadara, on parle très peu du fait qu'il y a eu 6 ou 7 siècles d'existence d'un épicurisme qui n'est pas un épicurisme grec, mais qui est un épicurisme romain, campanien précisément, c'est-à-dire autour du en Campanie, autour de la ville de Naples aujourd'hui. Et ces philosophies-là, elles sont oubliées, elles sont négligées. On a aujourd'hui l'œuvre complète de Platon et on n'a pratiquement plus rien d'Épicure.